Philosophe, la série de France Inter consacrée aux révolutionnaires de la pensée. Hannah Arendt, toujours en compagnie de la philosophe Perrine Simon-Naoum. Il y a une question qui est absolument fondamentale et on est obligé de reprendre le fil de la vie d'Hannah Arendt, comme vous l'avez fait, Perrine Simon-Naoum. En mai 1933, Hannah Arendt doit fuir l'Allemagne, fuir le régime hitlérien. Elle s'exile en France. Elle sera privée de sa nationalité allemande par les lois de Nuremberg. 7 ans plus tard, en mai 40, elle est déportée sur ordre des autorités françaises aux côtés de ceux qu'on qualifie à l'époque d'étrangers indésirables. Elle va s'en échapper en juin. Elle rejoint les États-Unis dont elle deviendra citoyenne parce que ce pays, écrit-elle, était régi par les droits et non par les hommes. Et on va s'arrêter sur cette phrase-là. Elle aura passé donc 18 ans comme apatride. Apatride, c'est un mot qui est absolument central dans la manière qu'elle a de comprendre le monde et l'expérience d'être un homme ou une femme dans le monde. Pourquoi est-ce que elle peut dire « nous, réfugiés » alors même qu'elle devient citoyenne américaine ?
Elle gardera tout au long de sa vie cette tension entre le pays de ses origines, l'Allemagne, et finalement le pays qui a fait d'elle une citoyenne, et elle lui sera infiniment reconnaissante, les États-Unis. Ce qui est très important dans la pensée d'Arendt, c'est effectivement cette notion toujours d'étrangeté au monde. Et c'est à partir de là qu'elle analyse, on l'a vu avec les origines du totalitarisme, les grandes expériences politiques du XXe siècle. C'est aussi pour ça que sa pensée est aussi actuelle. Alors il ne s'agit pas du tout, à partir de cette catégorie d'étrangers, d'en faire une pensée compassionnelle.
Oui.
Je veux dire, au contraire. Mais ce que montre Arendt, et je reviens aux origines du totalitarisme puisque c'est dans la partie consacrée à l'impérialisme qu'elle analyse la condition d'apatride, elle montre très bien que la Première Guerre mondiale n'est pas une catastrophe comme les autres.
Alors
elle...
justement, il faut rappeler le contexte historique, il est absolument fondamental parce que c'est vrai que la Première Guerre mondiale et les traités qui vont suivre sa conclusion, ou en tout cas l'armistice, font éclater les frontières d'absolument toute l'Europe et d'une très grande partie du monde, et des millions de personnes se retrouvent sans nationalité, déracinées sur les routes, à quitter leur territoire natal, à quitter la terre de leurs parents, de leurs grands-parents, et à se retrouver donc profondément réfugiées et apatrides, sans patrie.
Oui, c'est pour elle le grand phénomène inédit du XXe siècle, et d'ailleurs elle ne limite pas son analyse au règlement de la Première Guerre mondiale, elle va aussi considérer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'elle montre, c'est que donc ce phénomène le plus nouveau de l'histoire contemporaine, qui est contemporain de l'affaiblissement de l'État-nation, c'est le fait d'avoir lancé sur les routes ces masses de gens qui sont dépourvus de tout droit.
Oui.
Ce qui amène au constat que finalement, les droits ne sont pas attachés à la nature de l'homme, mais les droits sont attachés à un phénomène géographique et politique. On le voit très bien aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'appartenez pas physiquement à un État, à une nation, vous n'avez pas de droit. Et du coup, elle en vient à critiquer cette notion de droit naturel, qui avait été finalement, depuis le siècle des Lumières, le fondement de l'humanisme et de l'universalisme, pour montrer qu'il n'en est rien. Et elle montre d'ailleurs que les Allemands ont parfaitement étudié le processus qu'ils ont ensuite appliqué aux Juifs, en disant, voilà, personne n'allait réclamer les Juifs, puisque les Juifs n'avaient pas de terre.
C'était des hôtes venus du pays de personne, ces réfugiés, dans un petit texte qu'elle publie en 1944. Les réfugiés, ils viennent du pays de personne, car ils ne peuvent être ni expulsés, ni déportés. Aucun des accords bilatéraux ne les protège, pas plus que le pays d'où ils viennent. Et donc, c'est en 1949, 5 ans plus tard, qu'elle rédige un essai qui va marquer les consciences. Il n'y a pas un seul droit de l'homme. On est un an après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, où on proclame « tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit ». Donc, c'est assez frappant quand même de s'en prendre à ce qui est pourtant une conquête majeure à ce moment-là. Pourquoi il n'y a plus un seul droit de l'homme ?
Parce qu'elle tire le constat de ce qui vient d'être l'expérience politique majeure, à savoir le totalitarisme et l'extermination des Juifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle accueillera favorablement la création de l'État d'Israël, parce qu'elle va dire finalement, les Juifs, ces apatrides, vont trouver sur une terre, et on doit se rappeler aujourd'hui cette réflexion, c'est à partir du moment où vous habitez une terre que vous pouvez retrouver vos droits. L'idée, encore une fois, pour Arendt, c'est que le droit se fonde à partir du fait d'habiter le monde et de l'habiter, je dirais, de façon objective, de façon empirique.
Donc elle défend l'idée d'un droit d'avoir des droits. Expliquez-nous ça aussi, puisque c'est une idée qui est considérée comme l'un des apports majeurs d'Hannah Arendt à la pensée politique, et elle la formule dans Les origines du totalitarisme.
Oui, c'est l'idée finalement que à partir de ce droit, vous enclenchez tout un réseau relationnel avec l'ensemble de vos contemporains. Et finalement, pour elle, c'est ça qui fait l'humanité de l'homme. C'est la manière dont nous sommes sur Terre et la manière dont nous coexistons avec nos semblables.
Et là aussi, il faut prendre au sérieux la notion de nouveauté, c'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont pas à rechercher dans une origine naturelle, dans des droits inaliénables et sacrés comme ils ont pu être proclamés sous le siècle des Lumières. C'est quelque chose à inventer et sans cesse à réinventer. C'est-à-dire que le droit à avoir des droits, c'est la possibilité de créer ce qui est sans précédent dans l'histoire.
Vraiment, ce qui est très remarquable dans la pensée d'Arendt, c'est la manière dont elle met précisément la philosophie au défi de la vie. Et la manière dont elle en vient à critiquer toutes ces abstractions que sont les constructions liées, encore une fois, à l'avènement de la philosophie des Lumières et à l'avènement d'un universalisme abstrait. On le voit bien d'ailleurs dans son essai qui suit la crise de la culture, l'essai sur les révolutions de 1963, oui, où elle met en parallèle la révolution américaine et la révolution française. Et ce qui, là encore, est très surprenant, c'est qu'elle montre que la révolution française, que nous considérons comme une incontestable réussite, est en fait un échec. Et que celle qui doit dominer, c'est la révolution américaine. Pourquoi ? Parce que la révolution américaine parvient à construire un monde commun, alors que les révolutionnaires français échouent à le faire, en réduisant finalement, par la suite, au XIXe siècle, dans l'interprétation de la Révolution, ceux qui en sont les spectateurs, et là encore, elle se réfère à une image qui est celle de la philosophie de l'histoire de Kant, vont réduire l'humanité à un problème qui est le problème social. C'est là aussi où Arendt est une critique de Marx, alors que la Révolution américaine peut être moins ambitieuse dans la manière dont elle entendait révolutionner le monde, est, elle, parvenue à travers la création d'institutions, mais aussi d'associations. Et là encore, on est renvoyé à une contemporanéité malheureuse.
Oui.
Est parvenue à créer du commun.
Mais pourquoi les pères fondateurs seraient-ils plus inspirés ou ont-ils été plus inspirés que les révolutionnaires français ? C'est vrai qu'on ne peut pas négliger la terreur, on ne peut pas négliger cette déclaration des droits de l'homme qui ne sera jamais appliquée, celle de 1793, et qui justement met l'accent sur les droits sociaux plus que sur les droits-libertés.
Alors, les pères fondateurs n'étaient peut-être pas plus inspirés que les révolutionnaires français. Et là encore, ce qui est très surprenant dans la description d'Arendt, c'est qu'elle montre que les révolutionnaires ne sont pas révolutionnaires. En réalité, les révolutionnaires, ils veulent un retour à une forme d'âge d'or antérieur. Mais ce qui distingue les États-Unis de la France, c'est que les États-Unis se pensent et sont en réalité un monde nouveau. Et c'est donc cette nouveauté qui permet en quelque sorte d'inventer un nouveau régime politique.
L'homme est un animal politique, pour reprendre la formule d'Aristote. Est-ce que Hannah Arendt pourrait la citer et la faire sienne ?
Elle pourrait tout à fait la citer et la faire sienne, mais je dirais qu'elle lui adjoindrait tout un aspect, évidemment, que Aristote n'avait pas vu et il ne pouvait pas le voir, puisque la notion d'individu n'existait pas dans la philosophie aristotélicienne. L'idée d'Arendt, c'est que ce qui précède le politique, c'est le commun. C'est-à-dire que c'est finalement l'humanité que nous formons, d'une part à travers la relation que nous établissons avec les autres, et aussi dans la manière dont nous accueillons, et là encore, il faudrait s'en souvenir aujourd'hui, les générations nouvelles.
Il y a un mot que vous avez employé fréquemment et qu'emploie Hannah Arendt, c'est le mot d'habiter. Habiter, alors non pas la terre comme objet céleste, mais le monde. C'est important de faire la distinction. Dites-nous d'ailleurs, qu'est-ce qui distingue la planète Terre d'un monde ?
Le monde, c'est quelque chose que vous transformez, c'est-à-dire que vous l'habitez, mais je dirais que vous le faites avec une âme. Il ne faut pas faire d'Hannah Arendt la prédécesseuse d'une écologie politique radicale, c'est
non.
Pas du tout son idée. Son idée, c'est...
Même si elle est contemporaine, malgré tout, de destruction absolument massive et de ravages, de prédations faites sur la nature et ses ressources, elle est contemporaine de l'invention de la bombe atomique, elle est contemporaine de l'idée inimaginable avant elle ou avant Oppenheimer de la destruction de toute vie organique sur Terre.
Oui, mais Arendt n'a pas dans l'idée que la nature est forcément bonne. Le monde d'Arendt n'est pas le monde de la désolation, je dirais, d'une planète sans homme. Ce qui fait le but de l'existence, c'est peut-être cette notion de pouvoir et de puissance que nous n'avons pas encore évoquée,
oui.
À laquelle il faut se référer. Là où Arendt emprunte à Aristote, c'est que le but de la politique, l'action politique ne doit pas se concentrer autour d'un objectif. Ce n'est pas le but qui importe, c'est la puissance, en fait.
Alors
c'est
ça,
l'action.
C'est contre-intuitif. Expliquez-nous ça.
Oui,
parce qu'après tout, on peut se dire que la politique, c'est la présentation d'un programme, d'un objectif à réaliser, à atteindre, et qu'on juge, on évalue la politique sur sa capacité à réaliser ce résultat.
Non, c'est l'idée, encore une fois, qu'elle emprunte à Aristote, que c'est la voie qui va y mener qui importe et non pas l'objectif. Et cette voie qui va y mener n'est pas réductible, encore une fois, à un processus. C'est là où elle entre aussi en dialogue avec des penseurs de l'histoire comme Raymond Aron, à savoir que ce qui intervient, c'est la nouveauté, c'est l'inassignable, c'est le hasard, et que c'est aussi ça qui compose ce qu'elle appelle l'humanité.
La tradition philosophique, la métaphysique, aussi loin qu'on puisse remonter jusqu'à Parménide et Platon, c'est répondre à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Et elle, elle dit que dans le monde contemporain, c'est peut-être une autre question qu'il faudrait poser. Pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne ? Et expliquez-nous le déplacement de sens et pourquoi cette question, c'est celle-là, cette dernière question. Pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne qui compte d'abord et avant toute chose ?
Elle s'inscrit dans la suite de toutes les réélaborations que vont faire les philosophes des années entrées en philosophie dans les années 30 de la philosophie heideggerienne. À savoir que, encore une fois, on trouve la même question par exemple chez quelqu'un comme Sartre, on la trouve reformulée chez quelqu'un comme Merleau-Ponty. Ce qui compte finalement, c'est la manière dont l'individu va trouver sa place dans le monde. Cette génération, elle s'affronte à ce qu'on a appelé la question de l'existence.
Oui.
Une fois que vous découvrez que votre existence n'a pas de sens assuré par un principe transcendant, il faut donc lui donner un sens. Et c'est ce que Malraux appelle la condition humaine. C'est ça la condition humaine. Comment trouver un sens à notre existence ? Eh bien, chacun, après Heidegger, que ce soit Arendt, que ce soit Sartre, Aron, Merleau-Ponty, Patochka, chacun va chercher dans cette direction et le sens que nous devons donner à notre existence pour Arendt doit tenir, je dirais, en tension. Et c'est ça qui est très beau chez elle et c'est ça qui la rend très contemporaine, la pensée et l'action. C'est-à-dire que elle ne sacrifie rien. Elle ne sacrifie non plus rien de l'individu. Il y a un article que j'adore d'Hannah
oui.
Arendt qui s'appelle « Les œufs se rebiffent ».
Les œufs.
Les œufs se rebiffent. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est une critique fondamentale du totalitarisme, mais aussi des philosophies de l'histoire, c'est-à-dire des téléologies de l'histoire. L'idée que l'histoire
a un sens
collectif. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle critique cette idée, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Elle dit finalement, les révolutionnaires, et on revient à notre question du départ, que ce soit les révolutionnaires russes ou d'autres révolutionnaires, disent, on peut sacrifier les individus, on peut sacrifier le présent, si c'est pour accomplir un idéal dans le futur. Eh bien, elle dit non. Moi, je fais partie des œufs qui refusent qu'on le casse pour faire une omelette.
Ben, ce sera la morale de l'histoire. Hannah Arendt par Perrine Simon-Naoum. Merci infiniment, Perrine Simon-Naoum, d'avoir
Merci
été l'invitée de France Inter. Philosophe, une série d'Ali Badou préparée par Maël Polsinelli, réalisée par Séverine Cassard. Prise de son, Maxime Goudard. Mixage, Basile Bocquer et Baptiste Collion. Coordination, Fanny Boyon. Philosophe est un podcast original de France Inter.